Vous écoutez RTL.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
19h19 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la journaliste Hélène Pilichowski. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Marc-Olivier.
Avec le rédacteur en chef du service débat du Figaro et de Figaro Vox. Bonsoir Guillaume Perrault.
Bonsoir Marc-Olivier.
Avec l'ancien président de Système U. Bonsoir Serge Papin.
Bonsoir Marc-Olivier.
Et comme tous les jeudis donc, Olivier Mazerolle est avec nous. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Avant de s'intéresser à Emmanuel Macron, qui est toujours en train d'échanger avec des citoyens depuis 18h à Bourg-de-Péage, il a pris tout le monde par surprise, et notamment Laurent Wauquiez, qui lui reprochait d'être dans sa bulle. Et ben, voilà. Manque de chance pour le président des Républicains, immédiatement démenti par Emmanuel Macron. On débat ça dans un instant, mais un sujet qui fait polémique également depuis ce matin, Danny Boone et son patriotisme fiscal, mis en doute par Mediapart. Selon le site d'investigation, l'acteur-réalisateur enchaîne les résidences fiscales à l'étranger avec des investissements dans des fonds spéculatifs controversés. En clair, il fait de l'optimisation fiscale. Ce soir, sur Facebook, Danny Boone se défend, répond « J'ai toujours payé, je paye et je payerai toujours tout l'impôt là où il m'est réclamé. Je suis fier d'avoir payé en France en 2018 sur mes revenus 2017 un impôt très important correspondant à un taux d'imposition de près de 50%. Toutes mes économies sont placées légalement. Alors vous dénoncez ou pas finalement le côté moralisateur de Mediapart, ou alors vous comprenez finalement que Mediapart pointe du doigt Danny Boone. D'abord sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret, bonsoir.
Bonsoir, mais vous croyez quoi? Qu'il avait un compte à la banque postale de Maubeuge, ricanerie d'entrée. Beaucoup s'offusquent, mais beaucoup le défendent, comme Martine qui trouve les médias affligeants, ça nous regarde pas. Optimiser, c'est même une question de bon sens, vous êtes lassant, hein, si se festi. Mais oui, il faut arrêter cette hypocrisie. Qui ne peut pas être tenté de payer moins d'impôts s'il peut le faire dans un cadre légal? Ce sont les lois qui sont mal faites, assure Marie. La tête de liste insoumise aux européennes, Manon Aubry, trouve elle aussi que cette enquête met au jour une fois de plus l'inaction du gouvernement et de l'Europe qui se refuse toujours à lister les véritables paradis fiscaux. Lode lui grince, je suis pas fan de Boone, mais a-t-il fraudé? Non. A-t-on le droit d'acquérir une propriété à l'étranger? Oui. Paye-t-il ses impôts en France? Oui. L'optimisation est-elle illégale? Non. Flog rétorque tout de même, ce qui est détestable chez ce monsieur, c'est les leçons de morale qui s'est permis de nous donner tous les 4 matins via les médias. C'est le mensonge qui est visé par cette enquête, pas la légalité, confirme Book. David se souvient de Danny Boone disant dans cet avou, je suis ravi de payer mes impôts en France et dans Marianne. J'ai gagné cet argent grâce à mon pays, à l'éducation que j'ai reçue. C'est normal que ça lui revienne. Oui, autant la lutte contre l'optimisation et l'évasion, c'est nécessaire. Mais s'en prendre nommément à une personne comme ça, c'est de la pure délation, hésite Pascal. Fabrice Arfi de Mediapart répond pour finir. Un personnage public revendique son patriotisme fiscal. Nos documents prouvent que c'est faux. Le journalisme consiste, je crois, à publier des infos face aux ruses de la communication.
Débat intéressant, Olivier Mazerolle, puisque ce que fait David Boone est légal, moralement répréhensible d'après Mediapart. Votre avis sur la question?
Bah écoutez, j'en sais rien, moi. Non, mais je sais pas si
ça commence bien.
Je sais pas si Danny Boone a fraudé ou pas.
Fraudé, des Mediapart ne le prétend même pas.
Optimisé.
Ah bah, s'il a optimisé et qu'il est resté dans les règles. Alors maintenant qu'il y ait des règles d'optimisation qui soient extravagantes, oui, ça c'est vrai, ça existe. Oui, bien sûr. Voilà.
Il n'y a pas de règles d'optimisation, justement. Mais c'est le plus malin.
Enfin,
c'est
au plus malin. Il y a des règles qui permettent l'optimisation.
Oui, voilà.
Bon, ok, d'accord. Voilà, si.
Mais il n'y a pas un petit côté.
Effectivement, il faut le dénoncer. Il faut réclamer une transparence fiscale et une simplicité fiscale qui nous fasse sortir de l'opacité et qui jette la suspicion sur tout le monde et qui amène les uns et les autres à jalouser. Tous ceux qui sont autour de lui. Donc, oui, ça, il faut le faire. Maintenant, le cas de Danny Boone en particulier, pourquoi le pointer lui du doigt plus qu'un autre? Il le fait, voilà.
Bah, le pointer du doigt lui plus qu'un autre pour une raison simple, c'est qu'il s'est érigé en parangon de la morale en disant moi je suis un artiste mais je paye, je suis un excellent républicain, un contribuable exemplaire.
Enfin, il répondait déjà à des questions pour répondre.
Oui, parce qu'on l'avait. Voilà, il n'a pas. Il s'est pas
régulièrement.
Il répondait à des questions. Il n'y est pas allé tout seul là-dessus. C'est parce qu'on lui a reproché ses résidences fiscales et donc au fur et à mesure il dit oui mais je paye mes impôts en France.
Il a été au-delà de ça. Il a été au-delà de ça. Il a développé un discours se présentait comme exemplaire. Alors évidemment, il s'est mis lui-même dans la situation où le public attend de lui qu'il le soit exemplaire, puisqu'il l'a dit ou laissé entendre qu'il l'était. Bon, ça, c'est une première remarque. J'ajoute qu'il lui est aussi arrivé d'intervenir dans le débat public. Je me souviens très bien, qu'à l'élection municipale d'Hénin-Beaumont, où il y avait la liste de Marine Le Pen qui était pouvait l'emporter, alors que personne ne lui demandait rien et qu'il était installé en Californie, il a cru judicieux d'appeler à voter contre Marine Le Pen. Et je pense que ce genre de contradiction...
Vous y voyez une contradiction,
Moi, j'y vois une contradiction, oui. Et comment ça peut être ressenti aujourd'hui par une partie de la France ? Les Français doivent se dire, ce type nous donne des leçons de morale et il fait de l'optimisation fiscale qui est moralement blâmable, même si c'est pas délictueux.
Oui, moi je pense qu'il va y avoir beaucoup de Français ce soir qui vont tomber de leur chaise en disant on ne savait pas que Danny Boon s'était érigé en parangon de la vertu fiscale. Je crois pas, personne ne l'a entendu. C'est pas parce qu'il a fait une ou deux déclarations.
Il l'a fait un peu plus, Hélène.
Ah ben moi je ne l'ai pas entendu, excusez-moi, mais je n'écoute peut-être pas
c'est assez. C'est parce que vous n'êtes pas assez people.
Les bons médias, si. Sans doute. Non, mais je n'aime pas la dénonciation, je déteste ça. Et là, on encourage. Ça, c'est quelque chose qui me gêne à tout point de vue, que ce soit Danny Boon ou quelqu'un d'autre. Je trouve que on ne sert pas forcément le pays avec ça. Bien sûr qu'il y a des petits malins qui profitent du système fiscal ou qui soient, ça c'est quasiment inévitable. Je ne sais pas comment on peut trouver un système qui va cravater les gens au point que tout le monde forcément sera un jour piqué s'il ose optimiser sa fiscalité et aller ailleurs, etc. Ça me dérange, moi, cette mentalité française. Voilà.
Oui, mais c'est quand même, par les temps qui courent, je trouve profondément... anormal, je le dis pas pour Danny Boom, dont comme Olivier Mazerolle, j'ignore si c'est réel ce qu'il a fait ou pas, mais en tous les cas, on voit un tas de résidents fiscaux, de gens qui ont fait fortune en France et qui, mais depuis des lustres, hein, vont habiter au bord du lac Léman ou en Belgique ou aux États-Unis ou en Angleterre. C'est profondément anormal. Comment on peut faire comprendre aujourd'hui, avec tous les mouvements que l'on a, et je pense au mouvement des Gilets jaunes, que des gens qui seraient nantis pourraient aller s'expatrier fiscalement. Je pense que là, pour le coup, il y a un devoir des politiques au niveau de l'Europe à ce qu'il y ait une équité fiscale et qu'on arrête comme ça de se faire du rapport de force fiscale un pseudo-élément de compétitivité inéquitable. Et ça, c'est un sujet qui devrait être porté. Je le vois pas, d'ailleurs, dans ce qui est en train de se constituer au niveau des élections européennes. Je vois aucun parti.
Non, mais sauf que ça, je suis obligé de rappeler à ce stade que Danny Boon paye ses impôts en France.
Oui,
il a beau être président étranger, l'argent qu'il gagne en France,
Boom,
il paye ses impôts en France. Et quand il dit qu'on paye 50%, il ne donne pas la somme, parce que la somme serait certainement choquante, parce que 50%, il doit payer des millions d'impôts. Ça veut dire qu'il en gagne des millions, et c'est ça que les gens retiendraient. La réalité, c'est qu'il donne des millions... en impôts français. C'est quand même ça la réalité factuelle des choses.
Voilà.
Et d'un coup, il est présenté comme à Mediapart comme celui qui fuit ses responsabilités. La réalité, c'est qu'il paye des millions et peut-être même des dizaines de millions d'impôts en France.
Oui, voilà.
C'est quand même ça la réalité du sujet.
De le rappeler.
C'est peut-être même l'essentiel.
Marc-Olivier, mais il y a une quand on choisit d'être un personnage public, on n'est pas obligé de répondre à ce genre de questions sur ses comptes en banque, sur, excusez-moi de vous avoir coupé, et sur ses choix d'optimisation fiscale. Bon, on s'expose effectivement à une recherche de cohérence.
C'est terrible de ne pas pouvoir être célèbre en France sans être pisté, sans être montré du doigt en permanence. C'est terrible.
C'est un raisonnement anglo-saxon qui est en train de s'imposer chez nous.
Oui, c'est exactement le sujet. Est-ce que ce raisonnement anglo-saxon, finalement, on a à l'envier ou pas, ce raisonnement anglo-saxon, de cette transparence absolue ?
Les Français sont devenus anglo-saxons, alors Marine Le Pen n'a plus qu'à s'arracher tous les cheveux, parce que franchement, conservons notre identité, s'il vous plaît.
Allez, on termine là-dessus sur ce sujet-là.
Mediapart y veille, rassurez-vous.
Allez, dans un instant, Macron face aux Français, donc rencontre surprise qui s'éternise manifestement puisqu'il est encore en train d'échanger avec eux à Bourg-de-Péage dans la Drôme.
On refait le monde dans RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel.
Et ce soir avec Olivier Mazerolle, Hélène Pilichowski, Guillaume Perrault et Serge Papin, l'acte 3 donc d'Emmanuel Macron, ça se passe à Valence. Le président a donc rencontré les élus locaux, dont Laurent Wauquiez. Je suis là pour vous écouter, en train d'absorber, s'il vous plaît, soyez libre, a-t-il lancé aux élus. Et alors que le président était critiqué pour ne pas participer à de vrais débat, et notamment par Laurent Wauquiez qui lui reprochait d'être dans sa bulle. Et bien depuis 18h, il est face aux citoyens à bourg de péage, une présence surprise. Alors face à des gilets jaunes qui se divisent avec la création d'une liste aux européennes, le président est-il en train de reprendre la main finalement, ou alors prend-il un énorme risque? On débrief sur les réseaux sociaux, Benoît.
Contrasté, dirais-je. On se moquait hier d'Hanouna, mais Macron aussi, hein, quel showman, là, Gustave. Je pensais que c'était le débat des Français, en revanche, pas le monologue du président. Quel monologue, ça agace Christine. Il a, les deux fois, répondu à chacune des questions posées. De toute façon, qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Jean-Marc jubile carrément. Bravo, monsieur Macron, vous mettez dans l'embarras tous ces opportunistes et récupérateurs du mouvement qui se voyaient déjà prendre le pouvoir. La démocratie, ça fonctionne quand on l'explique et qu'on ne ment pas, n'en déplaise au Rassemblement National et compagnie. Ah ça, il est très clair, grince Jim. Il assume et il changera pas de cap. Arrêtez donc de vouloir discuter avec cet homme. En tout cas, vu le nombre de caméras conviées, on peut dire que cette incrue surprise de Macron dans le débat, retransmis par l'Élysée, c'est un coup de com' bien huilé, s'amuse Alexandre. Encore de l'enfumage pour qu'il passe pour un président proche du peuple, dénonce Jean. Bien sûr, les personnes présentes ont sans doute été sélectionnées, identifiées, fouillées, et c'est normal. Faut juste pas nous faire croire que c'est une surprise partie, soupire Khadija. Bref, le président s'en sort pas trop mal comparé à d'autres séquences, surtout que pendant ce temps, Marco, sur Facebook, les Gilets jaunes s'étripent sur leur groupe. Éric Drouet publie un communiqué pour désavouer la liste. Voter Gilets jaunes, c'est voter Macron, dit-il. Il reprend d'ailleurs les résultats d'un sondage qu'il avait fait sur sa page. 98% des votants se disaient contre la liste, précise Vincent Glade. Ils veulent rester apolitiques, mais ils se structurent, et se structurer, c'est se diviser, explique Mystère. On verra combien ils feront, conclut Nicolas. Mais que le peuple en jaune des ronds-points assiégé par Macron s'essaye au suffrage universel, moi je trouve ça encourageant.
Serge Papin, il reprend la main, il prend l'initiative là face aux citoyens. Vous applaudissez ?
Oui, parce que d'abord, il y a, sur le débat citoyen, je crois qu'il y a 62% des Français qui sont favorables. Ils mouillent le maillot.
Vous avez vu le chiffre, hein, 62% des Français sont favorables et quasiment autant, même plus, disent mais favorables à ce qu'il existe, mais derrière, ça n'aboutira sur rien. Hein. C'est le paradoxe du sondage d'hier.
C'est toujours comme ça, les débats. Je ne veux pas faire de parallèle avec les états généraux de l'alimentation qu'on a conduits, ça devait servir à rien. Ça sert juste maintenant à améliorer le sort des paysans quand même. Hein. Donc on va voir, laissons le temps au temps dans ce domaine-là. Je pense qu'aussi le signe qu'il donne, ça c'est intéressant, c'est qu'il encourage aussi toutes ses équipes, y compris les députés de La République En Marche, à eux aussi aller dans les débats citoyens. Et, parce que c'est une question de leadership aussi maintenant. Donc il n'a pas le choix, Emmanuel Macron, et il doit montrer l'exemple de ce point de vue-là, me semble-t-il. C'est ce qu'il est en train de faire.
Olivier ?
Oui, alors, bah, c'est une bonne chose. Bon, alors, c'est pas tout à fait improvisé, quand même, ce qui s'est passé là, parce que on voit bien que ça a été préparé par M. Guillaume, qui est ministre de l'Agriculture. Mais les gens, eux, ne savaient pas que Emmanuel Macron serait présent. Et donc, l'affaire est très intéressante, parce que quand on écoute... Il y a du respect qui est manifesté, c'est-à-dire il n'y a pas d'injures, il n'y a pas de vociférations, mais à un moment donné, une femme l'a interpellé en lui disant « Ouais, c'est facile quand on est banquier, quand on a été banquier d'affaires chez Rothschild. » Et là, Emmanuel Macron, il a répliqué, il a dit « Attendez, cette interpellation, hein, si ça s'appelait Banque Dupont, vous ne la feriez peut-être pas. » Donc il y a des sous-entendus.
Et il dit d'ailleurs je ne suis pas hérité de rien, je suis né à Amiens.
Dans la bouche, je suis né à Amiens, hein, et j'ai travaillé et je n'ai pas lâché le morceau. Alors donc, maintenant, vous n'avez rien à me reprocher. Oui, j'ai eu une vie avant, maintenant je suis président de la République. Voilà, c'est comme ça. Bon. Mais, en revanche... Et il a été interpellé également très durement par un monsieur qui lui a dit « Voilà, page 232 du rapport Attali, c'est vous qui l'avez rédigé, il y a trop de dépenses en France et il faut réduire les dépenses à coût d'économie de 1 milliard par an. » Bon, mais sûrement vous ne le ferez pas parce que vous allez vous attaquer aux gens qui sont de la même corporation que vous, les hauts fonctionnaires. Et là, non mais c'est très intéressant,
oui,
parce
que
Emmanuel Macron a dit « Oui, c'est vrai qu'il y a des superstructures extravagante, il y en a trop, ces hautes autorités indépendantes, il y en a trop. Et puis, il y a certains qui président ces hautes autorités, alors là, il n'a pas cité le nom, mais on pense à Jacques Toubon, puisqu'il a été interpellé sur cette antenne
par
hier matin, si je me souviens bien, qui ont une retraite extrêmement confortable,
c'était en début de semaine,
et des émoluments confortables, et donc... Ce sont des situations qui sont inexplicables. Quand on ne peut plus expliquer une situation, il faut la supprimer. Cela dit, vous savez très bien que c'est important parce que ça touche au symbole. mais c'est pas avec ça qu'on va régler le problème du déficit français.
Il parle cash, c'est intéressant. Il parle cash, mais est-ce qu'il prend pas des risques aussi
risque de la surenchère si on regarde les résultats potentiels, bien sûr qu'il prend des risques à ce niveau-là. Mais là, c'est là que commence le travail très important. Il rattrape le temps perdu. Il explique, par exemple, il dit là l'ISF, il en a parlé aussi. Moi, j'ai écouté un petit bout, ce que j'ai pu entendre en venant, etc. Et il a dit je taxe les fortunes l'argent dort, quand ça ne sert à rien, et j'ai choisi de ne pas taxer l'argent quand il est mis dans les entreprises. Ça, c'est clair. On ne voit pas pourquoi il n'avait pas expliqué avant, d'ailleurs.
Excusez-moi, il a expliqué avant. On ne l'entendait pas. Mais si, il a expliqué au moment de la sortie.
Mais pas suffisamment.
Le problème, c'est qu'on l'écoute parce qu'on est en plein dans la crise et que d'un coup, on l'écoute autrement. La transformation de l'ISF en l'IFI, je crois que ça s'appelle comme ça.
Oui, c'est ça, l'IFI.
Il a expliqué, mais on ne l'écoutait pas.
Il vient de dire qu'on peut-être s'intéresser aux plus-values réalisées. Par exemple, à Bordeaux, beaucoup de gens ont acheté des appartements à Bordeaux, ils ont fait la plus-value. On peut peut-être s'intéresser à cette question, a-t-il dit.
Il est intervenu sur les transmissions.
En tout cas, c'était improvisé. Vous disiez tout à l'heure que c'était quand même un petit peu préparé à l'avance, etc. Non, parce que moi, j'ai vu son entrée, il s'est fait interpeller à l'entrée par des gens qui lui disaient, mais vous avez un ticket pour entrer, ou quelque chose comme ça, grosso modo, parce que le bruit s'était un peu brouillé. Et il a dit, mais bien sûr, je ne me suis pas inscrit, mais j'ai vu que l'entrée était libre, il a dit. Alors c'est quand même incroyable.
Mais c'est un peu de la mise en scène et un peu de la com.
Je ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui étaient là.
Les gens ne savaient pas, mais l'Élysée et M. Guillaume se sont assurés qu'il n'y aurait pas de vociférations à l'intérieur de la salle.
Et puis qu'il n'y avait pas des gens armés, bien évidemment, qui étaient dans le coin, ça c'est sûr.
Moi, j'ai le sentiment d'une espèce de séminaire d'entreprise. Ça me fait penser à un séminaire d'entreprise où vous auriez un manager qui dit aux salariés, bon, vous ne m'aimez pas, c'est un fait, mais je vais vous montrer que je suis le meilleur, le plus compétent, et par ma compétence que je vais exhiber, par la performance sportive que je vais réaliser devant vous, je vais vous conduire, en sortant, à la réflexion suivante. Bon, c'est vrai que le manager est vraiment antipathique, mais quand même, c'est un expert, on ne peut pas lui enlever ça. Et donc, voilà l'exercice auquel il se livre. Je trouve que...
Avec succès ?
Alors, je trouve que c'est un exercice risqué, parce que nous, on réagit un peu en commentateur sportif. On commente une prestation sportive. Mais est-ce que les Français attendent du président sous la Ve République qu'il se mette en bras de chemise ? Je ne dis pas qu'il est désinvolte, mais il veut casser son image de monarque républicain. C'est Louis XIV qui descend de sa statue parle avec les salariés, je vous dis, comme un manager.
On va en parler après la publicité, mais comme vous parlez de sport, comme vous faites une métaphore sportive, l'occasion pour moi de vous donner cette dernière info qui sera évidemment extrêmement commentée, puisque l'entraîneur de Monaco, Thierry Henry, suspendu de ses fonctions ce soir.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fogiel.
Avec Serge Papin, Guillaume Perreault, Hélène Spilichowski, Olivier Mazerolle, on termine sur ce sujet-là avant de parler de la défiance des Français envers les médias. Quand vous le voyez, Hélène Spilichowski, comme ça, maintenant, ça fait quasi 2 heures qu'il est face aux Français dans cette petite salle de bourg de péage. Vous trouvez que c'est la place d'un président de la République ?
C'était la question que je me posais à l'instant, justement, parce qu'à la fois, il a besoin de montrer qu'il est plus proche des gens, puisqu'on lui a tant reproché d'être Jupiter dans son bunker à l'Élysée et de mépriser le peuple. Donc, effectivement, là, il fait une session de rattrapage. C'est évident, il a raison, d'autant qu'il le fait avec pas mal de naturel. On n'a pas le sentiment qu'il se force, on a le sentiment qu'il prend un certain plaisir même. Mais en même temps, est-ce qu'on a besoin aussi, les Français sont assez paradoxaux quand même, supposer que les Gilets jaunes représentent une majorité des Français. Mais les Français aiment bien avoir un président qui représente quelque chose. Souvenez, les présidents ont toujours pensé qu'il fallait qu'ils roulent dans une belle voiture pour honorer la France, parce que leur image, justement...
Est-ce qu'on n'est pas passé à autre chose, là, en 2019
Moi, je trouve que c'est ambivalent.
Vous êtes sûr de ça, c'est les deux à la fois.
Il ne faut pas qu'il en fasse trop. C'est bien. Voilà, les maires, il l'a fait deux fois. Franchement, il fallait arrêter. Les Français, il ne faut pas qu'il en fasse trop. Mais effectivement, ce qui marque, c'est le ton naturel qui est le sien. Par exemple, il a dit quelque chose qui est très important sur le glyphosate, par exemple. Il a dit, je ne peux pas vous dire que dans 3 ans, on sera sorti du glyphosate.
Il dit même, on n'y arrivera pas à 100%.
Et il pense même qu'on n'y arrivera pas. Mais pourquoi dit-il ? Parce qu'il faut préserver nos filières.
Je rappelle qu'il a dit exactement l'inverse lors du départ de Nicolas Hulot.
Non, mais peut-être. Ah bah oui, non, mais d'accord. Mais peut-être. Eh ben, ça veut dire qu'il évolue. Ça veut dire.
Non, mais d'accord.
Non, mais alors on peut toujours. On peut toujours. Attendez, je suis pas en train de dire que c'est formidable. Je dis simplement que dans un débat comme ça, il s'exprime avec naturel. Il ne le ferait sans doute pas, et ça ne passerait pas de la même façon si c'était au cours d'une déclaration solennelle ou d'une interview. Là. Il dit carrément les choses, voilà,
il
je vous mentirai.
Et d'ailleurs, là,
si
il est applaudi, d'ailleurs. Il est applaudi, d'ailleurs, là, en ce moment même, donc ça doit être assez étonnant. Oui, je sais pas ce qu'il vient de dire pour être applaudi.
À 100%, hein, oui, il a dit, oui, à 100%.
Mais c'est ce que je vous dis.
Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'en fera pas en partie. Ah
bah, évidemment, mais à 100%.
Mais 100% de ce qu'il avait proposé, c'était déjà...
Il avait dit, puisque vous vous rappelez tout l'accord, on ne va pas refaire le sujet, c'était au départ, c'était 10 ans, on était engagé sur 10 ans avec l'Europe.
Donc maintenant, on sait pourquoi ce n'est pas inscrit dans la loi.
Voilà, et
on sait pourquoi ce n'est pas inscrit dans la loi. C'est parce qu'il sait que dans 3 ans...
Mais il nous avait dit, parce qu'il n'arrivait pas à l'échelle européenne, je rappelle ça. Je rappelle ça pour les... Attendez, juste une seconde, je rappelle ça pour les auditeurs, autrement ils vont être perdus. Donc il fallait que mettre tous les Européens d'accord pour obtenir une sortie de glyphosate dans un temps réduit. Il n'a pas réussi ça. Il a dit, mais nous, on le fera. Et puis, on fera en sorte que les autres le fassent aussi. Voilà, là, il dit, on ne le fera pas maintenant.
Donc, il a changé d'avis, c'est un fait. Mm-hmm. Et ça va râler dans le Landerneau, notamment écologiste, et à juste titre, parce qu'il revient sur quelque chose. Mm-hmm. Mais voilà, confronté à un interlocuteur lambda, il répond avec un naturel qui est intéressant.
Le glyphosate, ça a été sur ce sujet particulier, ça a été retoqué au niveau de l'Europe. Hein, après, voilà, et par d'ailleurs,
mais nous, on sera plus vertueux que l'Europe.
Oui,
quoi.
Oui, mais les Français ont voté, une partie des députés français dont on a eu les noms, d'ailleurs, c'est passé dans l'IB, ont voté contre.
Oui, je me souviens.
Et on aurait pu faire un recours, puisque la loi est passée à 2%. La France aurait pu recourir, elle n'a pas fait. Après, sur la question exceptionnelle, puisque on est dans une situation exceptionnelle quand même avec ce mouvement des Gilets jaunes, c'est bien que le président de la République soit dans des situations exceptionnelles et qu'il participe à ce grand débat. Moi, symboliquement, simplement, j'adorerais qu'il ait aussi l'énergie de l'écoute. Mmh. C'est parce que, en fait, c'est ça le grand débat. Et symboliquement, j'aurais adoré qu'il soit à l'écoute. Parce que là, on le voit beaucoup, 7 heures, un vrai marathon devant les maires. Là encore, on le voit qui s'exprime beaucoup. Il faut aussi, parce que c'était ça, le grand débat, c'est l'écoute des élites. C'est ça qu'on demande.
Mais les maires, ils les ont écoutés la moitié du temps. 6 heures,
c'est le grand oral.
Il y avait 3 heures de.
Allez, on termine avec vous, Guillaume, et après, on change de sujet.
Le danger, c'est que son côté premier de la classe, qui est toujours le plus fort, reprenne le dessus et qu'il veuille montrer à tout le monde qu'il a toujours raison et qu'il est le meilleur. Ça peut être catastrophique si cette impression s'impose.
Allez, dernier sujet dans un instant. Vous et nous, les Français et les médias.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchiel.
Allez, c'est un chiffre historiquement bas. Les Français font de moins en moins confiance aux médias. Selon le baromètre Kantar La Croix, près de 3/4 des sondés jugent que les journalistes ne sont indépendants ni du pouvoir politique ni des pressions de l'argent. Seuls 38% font confiance aux infos qu'ils regardent à la télé. 44% la presse écrite. La radio s'en sort un peu mieux. 50%, mais quand même un Français sur deux, donc défiant. La crise des Gilets jaunes a accentué ce fossé. Seulement 32% estiment qu'elle a été bien traitée. C'est grave, docteur. Comment vous l'expliquez? Quelles sont les solutions, les préconisations? À qui la faute? Vous diriez quoi, Guillaume Perrault?
Ça dépend si on parle du traitement des Gilets jaunes ou de la crise de confiance envers les médias, plus généralement. Sur les Gilets jaunes, je crois que c'est impossible de donner satisfaction à l'ensemble de l'opinion dans la façon de traiter ce mouvement. Parce que ce mouvement est lui-même tellement complexe, tellement contradictoire, tellement hétérogène, et les esprits tellement chauffés à blanc, que chacun veut simplement être conforté dans ses convictions personnelles. Les gens n'ont pas vraiment envie d'être informés. Ils ont envie qu'on leur dise « Vous avez raison et je vais vous donner des arguments pour vous conforter dans vos convictions que vous avez déjà. » Et si les gens, si les infos ne sont pas, ne rencontrent pas ces convictions, on dit « C'est pas objectif. » Donc, être objectif, ça veut dire en fait conforter les interlocuteurs dans ce qu'ils pensent déjà. C'est un vrai problème. Ça ne veut pas dire que les journalistes soient au-dessus de toute critique. Hein,
bien sûr, mais je comprends bien votre
point. Il y a quand même, il faut dire ça en défense de ma boutique.
Et globalement, Olivier Madrol, au-delà de la crise des Gilets jaunes, cette défiance qui s'accentue envers les médias, est-ce que c'est aussi lié peut-être aux réseaux sociaux et des gens qui s'informent à travers finalement que les réseaux sociaux avec des thèmes qui les intéressent et avec une communauté qui les informe de façon déformée. Et donc, quand il y a finalement une information objective, elle ne correspond pas très bien à la lecture personnelle.
C'est effectivement le prolongement de ce qui vient d'être dit. Déjà, on cherche la confirmation de ce que l'on pense.
C'est ça.
Et on ne la trouve pas toujours dans les médias. Ça, c'est vrai. Deuxièmement, ce que vous dites, même en dehors d'ailleurs de la crise des Gilets jaunes, ça touche pour beaucoup les jeunes, les moins de 24-25 ans qui vont sur Internet, alors qui passent d'ailleurs sur Internet, parfois à travers les médias, parce que sur Internet, on retrouve une reprise des médias, ce qui est un autre problème, parce que les médias, pour autant, n'en sont pas gratifiés sur le plan pécuniaire, et donc c'est une des causes de leur crise économique. Cela dit, il faut aussi quand même regarder un peu notre propre
balayer
boutique.
Devant sa porte, ouais.
Oui, je pense sincèrement, là, quand on demande aux gens quels sont les événements ayant marqué 2018, est-ce que les médias en ont parlé convenablement, pas convenablement ou trop, etc. Le problème autour de l'état de Johnny Hallyday, 88% disent les médias en ont trop parlé. Bon, alors, on va me répondre, ouais, mais si les médias n'en avaient pas parlé, ils reprocheraient parce que ça les intéressait, etc. Mais c'est vrai qu'on doit quand même réfléchir deux secondes. Est-ce qu'on a été dans la juste mesure? Bien sûr qu'il fallait en parler, c'est une évidence, il n'y a aucune raison de ne pas en parler. Mais est-ce qu'on n'en a pas trop fait? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'a pas quand même tendance?
Quand les Champs-Élysées étaient remplis de personnes que des millions de personnes regardaient les obsèques,
mais il y a les fans. Il y a les fans. Dans ces conditions, vous avez aussi les fans du Front National ou du Rassemblement National. On peut faire du Marine Le Pen toute la journée, selon ils écouteront la radio donc ou la télé. Par conséquent, il faut trouver un équilibre. Et quand même, on a un peu trop tendance dans les médias à se dire ça, c'est formidable, c'est sensationnel, donc ça va intéresser tout le monde, donc on va le traiter. Et on abandonne un petit peu trop l'idée que notre rôle, c'est aussi d'amener un niveau de réflexion plus poussé.
Est-ce qu'il n'y a pas le problème du discernement et du temps long? Moi, quand je regarde les news qui arrivent les unes après les autres, on ne sait plus les prioriser.
Ah oui, mais ça, c'est le rôle des grands médias. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est ce qui fait que le boulot est intéressant. Vous êtes dans un grand média comme RTL, justement, on a un rôle, tous autant qu'on est, de filtrage, de hiérarchisation de l'information, d'écarter ce qui ne nous semble pas bien. Et ce qu'on fait le soir à 18h, et c'est pour ça qu'une équipe est là depuis le matin très tôt, c'est d'avoir cette responsabilité-là.
Justement, mais vous voyez, je prends deux exemples qui sont passés à peu près au même moment. Il y avait l'histoire de la diversité avec la baisse des oiseaux, 30%, plus ou moins. Donc voilà, c'est un truc quand même assez grave. Mm-hmm. Puis après, vous avez l'affaire Benalla. Mm-hmm. Ces informations sont passées à peu près en même temps. Regardez ce qu'on a fait de l'affaire Benalla. Et regardez du peu de choses. Tout le monde s'en fout, alors que c'est dramatique.
Serge, mais qu'est-ce qu'on a fait de l'affaire Benalla? Mais l'affaire Benalla, personne n'a obligé les sénateurs de se saisir de l'affaire Benalla.
Le convoquer. Ah,
des médias. Mais les médias ne font aussi que couvrir une actualité.
Mais ils sont pas obligés de donner un retentissement de cette ampleur.
Ah, d'accord, mais si. Excusez-moi, mais quand vous avez le chef de cabinet ou de président de la République convoqué par les sénateurs, c'est un fait politique, ça s'appelle.
Non, mais d'accord, ça ne mérite pas trois chaînes d'infos en même temps.
À des fêtes de société ou des choses qui sont. Vous voyez, c'est quand même une nouvelle chasse l'autre, et on a une espèce d'industrie des news comme ça qui arrive, et on ne sait plus avoir du discernement. Et c'est pour ça qu'il y a aussi il y a une non-priorité des informations qui sont données. Et il n'y a pas de rapport au temps long.
Oui, enfin, on peut le déplorer, mais aujourd'hui, on a l'ère des réseaux sociaux. Et alors, on ferme quoi? On ferme Twitter, on ferme Facebook, on ferme Instagram. C'est quoi la solution?
Moi, ce qui m'a frappé, c'est les contradictions qui sont contenues dans ce sondage. C'est absolument effrayant. Alors, quand Olivier Mazerolle dit qu'il faut trouver un juste milieu, mais on ne peut pas trouver de juste milieu, puisque les attentes des gens sont toutes contradictoires en fonction de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font et de leurs opinions politiques. Mais quand vous voyez que les Gilets jaunes, la plupart des gens, je ne sais pas si vous en rencontrez, vous disent qu'on aura déroulé le tapis rouge, que c'était effrayant, qu'on ne voyait plus que ça à la télévision. Il y a eu une grande lassitude du public, comme je pense que vous l'avez.
Ouais. Sauf quand vous voyez par exemple hier LCI qui fait une soirée spéciale sur les Gilets jaunes, ça cartonne.
Qu'est-ce que disent les Gilets jaunes aujourd'hui? Qu'ils ont été maltraités, que c'est épouvantable.
Personne ne peut être satisfait.
Au point d'aller attaquer des équipes de journalistes.
Il reste 30 secondes.
Je voudrais essayer une chose, c'est l'anniversaire, le centenaire du camp d'Auschwitz aujourd'hui. Un jeune Français sur cinq ne sait pas ce que c'est que la Shoah.
On en a parlé de ça.
Et on en a Alors, vous en entendez parler.
Non, non, beaucoup, beaucoup.
On a fait des sujets, on a reçu des invités sur la Shoah.
Gillette Colin Carr. Bah oui, mais bon. Un jeune français, Marc-Olivier.
Encore la semaine dernière, là-dessus.
Un jeune français sur cinq ne sait pas ce que c'est. Donc, il y a aussi ce devoir-là, voilà, de prioriser parfois des choses.
Bon, franchement, il y a beaucoup d'injustices dans le jugement qui est porté par les Français sur les médias, c'est exact. Mais on ne peut pas dire non plus, il n'y a rien. Voilà. Il faut quand même qu'on regarde un petit peu, nous aussi, la manière dont on traite l'actu. Voilà.
Merci à tous les quatre d'avoir refait le monde sur RTL. Dans un instant, le flash de 20h et ensuite, ce sera Jacques Pradel. À tout de suite.
On refait le monde dans RTL Soir.
Avec Marc-Olivier Fogiel. RTL.